Par la prière. Ô notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, nous calmons nos âmes devant toi ce soir. Et de nos cœurs monte devant toi notre reconnaissance, notre humble louange pour cette semaine, parce que tu nous as parlé, tu nous as sondé, et à bien des égards tu nous as débloqué aussi, et nous voulons te remercier parce que bien des prières ont été répondues par la seule puissance de ta grâce et de ton amour. Ô notre Dieu, qui est comme toi, le Créateur des cieux et de la terre et de tout ce qu'elle contient? Qui est comme toi, le Dieu de toute chair, qui rachète tes serviteurs pour les amener dans ta maison? Qui est comme toi, ô Dieu et Père, pour venir personnellement sur cette terre et pour accepter en Jésus-Christ d'être le sacrifice pour nos péchés. Nous sommes émus ce soir, ô Dieu, en voyant cet amour que nous ne connaissions pas, que nous ne pouvions pas imaginer. Car tes pensées sont au-dessus de nos pensées, tes voix au-dessus de nos voix. Et pourtant, comme la pluie tombe sur la terre pour la faire germer et produire, eh bien ta parole a plu sur nos cœurs pour qu'il germe et produise, et qu'elle ne retourne pas à toi sans effet. C'est pourquoi tu l'as envoyé. Nous avons de la peine, ô Dieu, à voir que nous sommes là dans un plan, partis d'un plan que toi tu as voulu, que toi tu as permis, parce que nos yeux sont si restreints, notre perception est si petite. Et pourtant, tu es là, notre divin berger, et tu diriges nos vies et nos pas, un à un, un jour après l'autre, une décision après l'autre. Ô Dieu et Père, quelle grâce nous avons de te connaître, et non seulement de se sentir près de nous, mais d'entendre ta voix qui nous dit « Je vous porte » comme un père porte son fils. Eh bien oui, tu nous portes comme tes enfants. Ô Dieu et Père, merci parce que tu ne nous as pas laissés seuls, mais tu es venu à nous. Tu ne nous as pas laissés sans ressources. Au contraire, tu t'es investi en nous. Tu ne nous as pas laissés sans un lieu. Tu nous as rassemblés autour du Seigneur Jésus. Et pour cela, ô Dieu, nous te louons et nous te bénissons. Parce que non seulement nous avons une appartenance, mais nous avons une espérance ferme et sûre, scellée dans les lieux célestes, et qui nous transfère pour tous les temps jusque dans l'éternité. Ô Dieu et Père, quelle grâce est la nôtre! Quel cœur tu as pour nous! Nous nous sentons si petits devant un plan aussi merveilleux. Et nous voulons te louer ce soir. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons élever la personne de ton Fils, qui est merveilleux, le prince de paix, le consolateur, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le créateur de toutes choses, celui qui soutient toutes choses par la parole de sa puissance, notre rédempteur, notre époux. Ô Dieu et Père, que ton nom soit exalté pour l'éternité. Amen.
Amen.
Nous avons eu une semaine extraordinairement bénie. Et je voudrais vous demander la faveur quand vous, les campeurs, je m'excuse de me référer à vous comme cela, vous donnerez des rapports sur cette semaine-là, de parler du Seigneur. La personne que le Seigneur utilise pour amener la parole, c'est le Saint-Esprit. C'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Alors, veuillez glorifier celui qui doit être glorifié et garder toutes choses dans ses proportions. Oui. C'est important. Parce que trop vite, on met l'emphase sur ce qu'il ne devrait pas être. Et on met l'importance sur l'homme et pas sur Dieu. Et pour ça, je voudrais vous demander cette faveur de donner, si on vous le demande, un témoignage de ce que Dieu a fait et vous a dit. Parce que si vous pouvez parler de ce que Dieu vous a dit, eh bien, vous donnez gloire à Dieu. Et c'est tout ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que toutes nos vies soit une louange à Dieu, parce que c'est comme ça que ça doit être. Nous avons vu donc ce double sujet, le tabernacle, au travers du désert, et nous nous sommes rendu compte que ce tabernacle, il était temporaire, comme nos corps sont le tabernacle du Saint-Esprit, et ce sont des tentes temporaires. L'apôtre Pierre disait, c'est maintenant le temps de déposer ma tente. Son tabernacle avait rendu tous les services nécessaires pour le Seigneur, et c'était le moment de prier. Et puis, on s'est rendu compte que aussi notre tabernacle vivant, c'est Christ. Et plus que le tabernacle, il est le souverain sacrificateur dans ce tabernacle, n'est-ce pas? Et dans le lieu très saint, il n'y a plus l'arche de l'alliance. Nous avons lui-même qui est l'alliance en son sang. Il est l'accomplissement de la loi. Nous n'avons plus besoin des tables de la loi. Il est l'accomplissement de la loi. Et par ses provisions extraordinaires du Saint-Esprit, il a déjà commencé d'écrire la loi en nous sur des tables de chair. Non plus sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. Et malgré les infirmités qui sont là en nous et qui nous affligent jour après jour, dû à nos corps, dû à l'influence ou les habitudes de notre nature ancienne, eh bien, malgré toutes ces choses, eh bien, le Seigneur nous voit comment ? En Christ, n'est-ce pas ? Et il nous voit comme le Seigneur, le Père nous voit comme ses enfants bien-aimés, et il nous voit dans la même lumière et la même image que son Fils. Donc pour lui, l'Église est déjà glorieuse. L'Église est déjà sans tache, et sans ride, et sans rien de semblable. Le travail est fait parce qu'il voit ces choses au travers de son Fils Jésus. Et dans une autre image, c'est bien sûr, notre Seigneur est le médiateur entre nous et Dieu. Et c'est lui qui maintient notre salut par sa médiation. Et c'est lui qui continuellement plaide pour nous devant le Père et nous agrée, nous rend agréable à lui par lui-même. Donc, il y a là des leçons très importantes que nous voyons dans l'Ancien Testament. Et par la grâce de Dieu, si nous avons une rencontre comme cela l'année prochaine, mon souhait serait d'aller plus loin dans cette étude du tabernacle et d'étudier en particulier soit les sacrifices, soit le rôle des Lévites. N'est-ce pas? Parce que les Lévites, c'était aussi toute une image de Jésus-Christ. Il y avait 24 niveaux de service dans le Lévitique, pour les Lévites et les fils d'Aaron. Donc c'était très organisé, très bien fait, et pourtant, c'est quelque chose qu'il nous faut apprendre, parce que dans la parole de Dieu, il y a là énormément d'enseignements pour nous. Pourquoi le Seigneur a mis tellement d'emphase ou d'importance sur ce tabernacle, sur les Lévites, sur les sacrifices? Cela compte des dizaines et des dizaines de chapitres, et dans tous les livres des psaumes et des prophètes, cela revient, c'est un thème qui revient constamment. Et dans le Nouveau Testament aussi, en particulier l'Épître aux Hébreux, c'est un thème qui revient constamment. Et dans l'Apocalypse, la même chose, on a vu, ce thème du tabernacle est partout. Et pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Parce que nous avons un Dieu qui nous aime et qui cherche de tout son cœur les adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et ces gens-là, ces adorateurs, ils ne sont pas formés en 5 minutes. Ils ne sont pas formés le jour de leur conversion. Ils ne sont pas formés même le jour où ils sont baptisés. Ils ne sont pas formés le jour où ils prennent la Sainte Cène. Ces gens, ils apprennent à connaître Jésus, à connaître Dieu. Et dans la mesure où nous apprenons à connaître Dieu et à établir une relation vivante, journalière, même décision par décision avec le Seigneur, eh bien, ils deviennent toujours plus et toujours mieux qualifiés dans le sacerdoce qui est le leur. Et c'est pourquoi c'est tellement important de méditer dans la loi de l'Éternel continuellement, jour et nuit. De quoi Josué parlait-il? De quoi Moïse parlait-il à Josué? Il parlait des 5 livres qu'il avait écrits. Il n'y en avait pas d'autres à l'époque. Il n'y en avait pas d'autres. Et c'est ça qu'il donnait à Josué. Il lui a dit, si tu médites dans cette loi jour et nuit, l'Éternel fera prospérer tout ce que tu entreprendras. Et il m'a fallu des années pour arriver à comprendre ça. Parce que toute la Torah pointe vers la croix. Et la croix jette son ombre sur tout le sacerdoce de l'Église. Mais les principes restent les mêmes, les bases restent les mêmes, les moteurs restent les mêmes, la forme change. Mais c'est la seule différence. Et même tout ce qui est fait sur la terre. Depuis depuis la loi jusqu'à l'avènement de notre Seigneur, pour l'Église, tout cela, ce n'est que l'ombre des vraies choses à venir. Nous avons deux ombres. Nous avons l'ombre de la loi, nous avons l'ombre, si vous voulez, de la vie de l'Église sur la terre, qui est, si vous voulez, la miniature de ce qui va se passer dans les cieux. Hier, nous parlions du règne du royaume de mille ans, du règne de mille ans, du millénium. Imaginez-vous que pendant ce millénium, le temple sera de nouveau à Jérusalem, il sera reconstruit. Imaginez-vous qu'à Jérusalem, avec ce temple, il y aura de nouveau des sacrifices. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'est pas époux sur ces populations, sur ces résidus du millénium. Ce sera, au lieu d'avoir que le peuple d'Israël, ce sera toutes les nations soumises à Israël, mais qui seront dans la bénédiction d'Israël, sans avoir la tentation et l'influence de Satan. C'est-à-dire qu'enfin, ce que Dieu avait voulu d'une manière si merveilleuse pour le peuple d'Israël dans le désert et pour leurs enfants et les générations qui suivent, ces choses merveilleuses qui ont toujours été, si vous voulez, sironnées ou mangées par les rats de l'idolâtrie, eh bien cette fois il n'y aura plus d'idolâtrie. Ce sera pendant tout un règne, toute une époque, il n'y aura que l'Éternel. Et ce sera sans difficulté et sans secousse. Et c'est pour cela que toutes les promesses des prophètes trouveront leur accomplissement. Parce que Dieu est Dieu. Et Jésus l'a bien dit, il n'y aura pas un iota de la Bible qui ne s'accomplira pas. Donc tout sera accompli jusque dans le détail. Donc nous pouvons avoir confiance que l'Ancien Testament et toutes les prophéties qui ont été dites s'accompliront dans les jours à venir, comme une bonne partie d'entre elles se sont déjà accomplies de nos jours. Ce soir, j'aimerais que nous lisions dans l'Évangile de Jean pour commencer. Nous allons regarder dans Jean 14 quelques versets. Au verset 15 de Jean 14. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. Il y a là une scène touchante. Jésus va à la croix. Et sur le chemin de Gethsémané, il parle à ses disciples. Et ses disciples sont dans l'insécurité, ils sont dans l'anxiété, pour ainsi dire. Et il leur donne un encouragement conditionnel qui leur dit ceci. Il ne demande pas d'obéir à ses commandements, il dit de les garder. Il y a là un changement, si vous voulez, une petite modification de l'ancienne alliance avec la nouvelle alliance. Garder les commandements, ça veut dire en faire nos trésors. C'est-à-dire, au lieu de les voir comme des précepteurs, nous les voyons comme des pistes à suivre. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Vous garderez mes commandements. C'est à cela que Jésus voit la véracité de notre amour, n'est-ce pas? Que nous gardions ses commandements. Et le plus grand de ses commandements qu'il nous donne, c'est que nous nous aimions les uns les autres, comme lui nous a aimés, n'est-ce pas? Il n'y a pas de limite. Et l'amour est très fort dans le commandement de Jésus. Il donne cette recommandation à ses disciples pour peu de temps. Il ne donne pas ça pour tous les âges. Il le donne pour peu de temps. Et nous voyons qu'il promet de prier le Père pour l'envoi du Saint-Esprit à Pentecôte. Donc, on parle là de un mois et demi, pas beaucoup plus. Et il recommande à ses disciples de garder ses commandements pendant cette période de temps. Et ensuite, il a obtenu du Père que le Consolateur soit envoyé à ses disciples et à l'Église qui allait naître. Et il y a ce verset 18 qui, pour moi, est un verset merveilleux. « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. » Je suis sûr que parmi nous, il y a dans un sens des orphelins, même âgés, peut-être surtout âgés. Vous avez perdu votre mère, votre père. Et vous sentez un peu seul, parce que c'était quand même un appui. C'était quand même quelqu'un vers qui vous pouvez aller. C'était un point de référence. Et il y a ce sentiment de solitude. Et même si le père ou la mère avait tous ses défauts et toutes ses tensions, même s'il n'est pas chrétien ou elle n'est pas chrétienne, même si vous n'avez qu'une mère ou qu'un père, ou que ce soit un père adoptif ou une mère adoptive, c'est toujours un père ou une mère, n'est-ce pas? C'est toujours un point de repère pour votre vie. C'est toujours une racine. Et des fois, dans bien des cas, nos parents se sont endormis, ne sont plus là. Eh bien, c'est exactement ce que les disciples ressentaient. Jésus avait pris une telle ascendance dans leur vie qu'il était devenu le Père qu'il était. Moi et le Père, nous sommes un. Et pour ses disciples, il était une autre. N'est-ce pas? Il était leur fondement. Il était tout pour eux. Il vivait pour eux. Pierre avait dit, voici, nous avons tout quitté pour toi. On n'a pas encore fait dans cette chambre que nous avons tout quitté pour lui. Mais eux, ils avaient tout quitté. Et où est-ce qu'ils vivaient, ces hommes? La plupart du temps dehors, sous des ponts, ou là où on leur donnait de l'hospitalité. Mais ils n'avaient plus de maison, ils n'avaient plus rien. Ils vivaient comme des pauvres. Parce que Jésus s'est appauvri, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Et les disciples suivaient exactement ce sentier de pauvreté. Ils ne pouvaient jamais garantir le prochain repas. Parce que Jésus avait toutes sortes de plans avec les finances qui restaient après que Judas se soit payé. Et il donnait beaucoup aux pauvres. Et il donnait à ceux qui avaient des misères. Et s'il fallait aller sur repas pendant un certain temps, eh bien, on ne mangeait pas. Et ça, c'était Jésus. Jésus était toujours rempli de compassion. Et il savait se priver pour que les autres aient le nécessaire. Parce qu'il tenait sa vie non pas comme précieuse à ses yeux, mais comme étant celle que le Père lui a donnée pour le but qu'il avait à remplir, n'est-ce pas? Alors la chose que nous voyons ici, c'est que ses disciples vont tout perdre. Ils vont tout perdre. En plus de ça, ils vont perdre leur réputation. Quand ils viendront à Capernaum, les gens vont se moquer d'eux. Ha ha! Vous croyez que vous allez devenir les grands ministres, hein? Où est votre Messie maintenant? Où est votre position? Où sont les grosses payes? N'est-ce pas? On vous attendait. Puis maintenant, regardez ce que vous avez fait. 3 ans, pas de poisson. 3 ans, sans revenu. C'est une belle honte. N'est-ce pas? Et c'était des choses qui existaient à cette époque comme ça existe aujourd'hui chez nous. Et les disciples étaient vraiment déboussolés. Le Seigneur leur dit ceci. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et il sera en vous. L'Esprit de Dieu jusqu'alors avait demeuré près des personnes fidèles à Dieu. L'Esprit de Dieu était près d'un David, près d'un Daniel, près d'hommes comme cela. Mais maintenant, il y allait avoir un changement. Il y allait avoir un changement sérieux. Et ce changement, c'est que ce Saint-Esprit maintenant allait demeurer en eux. comme de tous les croyants. C'est énorme ce changement. Je ne vous laisserai pas orphelin. Qu'est-ce qu'il leur dit? Vous êtes enfants de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu. Quand l'Esprit sera en vous, vous êtes enfants de Dieu. Vous n'êtes plus orphelin. Vous avez un père. Vous l'avez nouveau. Et alors, imaginez, Jésus est crucifié, il est enterré, et après, il est enseveli, et après, il ressuscite. Et puis, il y en a deux disciples qu'il voit, trois disciples qu'il voit, tout un groupe qu'il voit, les femmes qu'il voit, 500 qu'il voit, partout il apparaît et disparaît. Le Seigneur est là. Tranquillement, il se montre présent. Mais c'est toujours par surprise. Les disciples ne peuvent jamais prédire quand il est là. Mais chaque fois qu'ils se voient, ils se disent, eh, mais peut-être le Seigneur est là. Il doit être là. Il doit nous entendre, il doit nous voir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques jours, on était dans la chambre haute, puis il apparaît tout d'un coup. La porte est enfermée. Ben maintenant, nous faisons exactement la même chose. Nous sommes en train de prier, il doit être là. Et puis, peu à peu, Jésus leur a fait comprendre que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Yahweh, je suis Yahweh au milieu d'eux. Ma présence, la présence de Jéhovah, la gloire Shikana est là au milieu d'eux. Le pilier dont on parlait spirituellement, eh bien, il est là au milieu d'eux. Vous vous rendez compte ce que ça représentait pour ses disciples de comprendre ce verset, de comprendre cette vérité tout d'un coup. Pour eux, ils ont réalisé que le temple n'était plus sur une montagne, mais que le temple, c'était eux. Et Pierre l'a très bien compris, et rapidement. Il a dit, nous sommes comme des pierres vivantes, un temple de pierres vivantes, au milieu duquel habite notre Seigneur Jésus. Tellement beau cette image des pierres vivantes. Et ce Seigneur Jésus, c'est quoi? C'est la pierre de fondement. Celle qui allait être rejetée, eh bien, celle-là, elle a été élevée. Maintenant, dans l'image que nous avons là, une pierre angulaire, nous n'avons probablement pas l'idée d'une maison où il y a une pierre angulaire, parce qu'il y en a beaucoup de pierres angulaires, il y en a aux quatre coins. Mais nous avons plutôt l'idée d'une voûte, n'est-ce pas, comme ça. Et il faut que toutes les pierres dans la voûte soient biseautées. Mais la clé de la voûte, elle est, elle, absolument essentielle. Parce que la clé de voûte, elle distribue la pression d'une manière égale dans toute la voûte, de gauche et de droite. Et c'est la dernière pierre qui fait tenir toute la voûte en place. Et ce qu'il y a de beau dans cette image, c'est qu'on peut voir à gauche, par exemple, à votre droite, les pierres, disons, les pierres de voûte qui font l'Ancien Testament, et à droite, les pierres de voûte qui font le Nouveau Testament. Et Jésus se tient au milieu, et il fait tout tenir l'édifice ensemble. N'est-ce pas? Et c'est un pont qui tient comme ça. Et sur ce pont, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les hommes peuvent passer de la mort à la vie. Frères et sœurs, trouvez-moi un sauveur comme lui. Trouvez-moi un Seigneur comme lui. Trouvez-moi une pierre qui soit aussi parfaite que lui est. Mais elle a été rejetée, cette pierre. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas carrée. Elle n'était pas parallèle. Elle était biseautée. Et elle était parfaite pour cette fonction. Et pourtant, c'était la fonction principale de toute la construction. Le Saint-Esprit vient en nous. Cherchons le Colossiens au chapitre 1. Et voyons une autre image. Une autre expression qui nous est donnée. Une expression très très connue. Colossiens chapitre 1. Verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplée dans ma chair. On avait vu ça ce matin, hein? Je supplée dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que je suis devenu serviteur, j'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Frères et sœurs, quelle expression. Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'espérance, on a vu que ce n'est pas l'espoir. C'est l'assurance de la gloire. C'est une assurance future. C'est-à-dire une certitude qui va arriver, mais qui n'est pas encore arrivée. C'est ça l'espérance. Et l'espérance est un espoir garanti. Comment est-ce que notre espoir de la gloire est-il garanti pour qu'il vienne une espérance? Eh bien, de nouveau, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en nous qui est le garant, qui est les arts de l'héritage que nous allons recevoir au ciel, c'est-à-dire quand nous serons au ciel, nous recevrons le plein héritage, qui est le Saint-Esprit, complet, dont toute sa gloire et sa puissance sera en nous. N'est-ce pas? Nous avons seulement une partie. Mais imaginez-vous bien ceci. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, on va parler du retour du Seigneur. Voyez ces disciples qui étaient là, ou disons avec tous ceux qui avaient connu Jésus, et tout d'un coup, ils commencent à se regarder les uns dans les autres, et ils se disent, mais maintenant, où est Christ? Où est Christ? Où est l'Esprit de Christ? Où est-il? C'est le Consolateur, qui fait partie de la Trinité, qui fait partie de Dieu. Et cette partie de Dieu, ou si on peut dire, cette puissance de Dieu, cette grâce, elle est en nous. Elle est en nous. C'est-à-dire que maintenant que Christ est dans la gloire, nous sommes le Christ, dans un certain sens, les envoyés messianiques, c'est bien ça, les envoyés messianiques, les ambassadeurs pour lui. Ça fait qu'il y avait au fond, après la croix, il y a eu résurrection, mais après, il y a eu, sous une forme un peu étrange, il y a déjà eu un retour de Christ. Non par personnel, mais par délégation. Vous voyez ce que je veux dire? Un retour de Christ qui est venu par délégation dans les croyants et par les croyants. Il est dans les croyants. Sa nature est en nous. Et comment est-ce qu'elle est en nous? Parce qu'il nous l'a donnée. Moyennant notre foi et par la grâce. Il nous donne cette nature. Et elle est aussi puissante et aussi grande qu'elle peut l'être. La seule chose, c'est que nous devons apprendre à la gérer. Et croire. La foi continue. Une fois qu'on a reçu Jésus dans son cœur, c'est pas fini, ça continue. La foi agit toujours la même chose. Ce que Dieu nous dit, ce que la parole nous dit qui est en nous, c'est à nous de croire. Si on ne croit pas, on ne le vit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ce qui est absolument extraordinaire dans toute cette histoire, c'est que le Christ n'a pas cessé d'être sur la terre. Il l'est dans son Église, qui est maintenant, comme vous le disiez, le corps de Christ. La terre est dans les cieux, mais le corps de Christ, il est sur la terre. Maintenant, vous me direz, comment est-ce que je peux croire à un être vivant si je ne vois que le corps et pas la tête? Ben, si on faisait un trou dans ce toit, disons que le plancher soit plus haut, disons qu'il y a un plancher sur ses pouces et qu'on fait un trou dans le toit, et puis que je mette ma tête dans ce trou, et vous voyez que mon corps, ça veut dire que la tête n'est pas présente? Non, elle est présente, parce que vous pouvez voir mes bras, vous pouvez voir mes jambes, mais je bouge, je fais des choses. Mais la tête, elle est là-haut. Donc, Christ est sur la terre. Christ est sur la terre comme il est dans le ciel. Mais il est par proxy sur la terre, et nous sommes le proxy. Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes le proxy sur la terre. Et pour comprendre cela, c'est, disons, dans un sens, déjà un retour de Jésus. C'est une espérance qu'un jour, ce retour va se compléter une fois que nous serons dans la gloire. Et puisqu'il est notre tête, ça va de soi qu'un jour, il va tirer le corps là où il est. N'est-ce pas?
ça va de soi. Une personne ne reste pas à deux places continuellement. La personne, le corps complet et la tête ne sont pas séparés. Elles sont ensemble, c'est une personne. Et aujourd'hui, elle est dans les cieux et elle est sur la terre. C'est spirituel. Et c'est comme ça que c'est. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et puisqu'il en est ainsi, il y a certaines choses qui devraient disparaître de notre conduite ou de notre manière d'être. Et d'autres qui devraient au contraire prendre place. Mais je ne veux pas aller dans le détail. Je veux simplement vous montrer qu'il y a là une vérité, une réalité que nous avons de la peine à saisir, et parce que nous avons saisi son mal, eh bien il y a toujours ces tentations, ce pouvoir de la chair, il y a toujours ces habitudes, la vie, la pression de la société et toutes ces choses qui nous ralentissent dans le témoignage et dans ce que nous devrions faire. Qu'est-ce que Jésus ferait aujourd'hui s'il était sur la terre? Exactement la même chose qu'il a fait il y a 2000 ans, n'est-ce pas? Il annoncerait la parole et la confirmerait par des miracles. Eh bien, il a donné à son Église des dons spirituels pour ce travail-là. Il l'a donné pour l'Église, mais il a aussi donné pour que l'Église s'agrandisse, parce que l'Église, c'est encore, ça grandit. Un enfant qui mange et qui ne grandit pas, il y a un problème. On va chez lui avec le docteur, on va avec lui chez le docteur. N'est-ce pas? On va voir pourquoi il est comme ça. C'est pas normal qu'un enfant qui mange et ne grandisse pas. Eh bien, l'Église, c'est comme ça. Si elle mange, elle doit grandir. Autrement, peut-être qu'elle est boulimique. Ouais, ça arrive. Elle mange. Assimile à rien, elle vomit ce qu'elle mange. Puis elle ne grandit pas. Non, c'est une chose qui peut arriver. Maladie. Puis on s'habitue à cette maladie. On vit avec. On la laisse être. Et on ne va pas vers notre divin médecin. Et lui dire, écoute Seigneur, nous sommes ta famille, nous sommes ton corps, mais il y a quelque chose qui ne colle pas là. Il faut que tu nous soignes, il faut que tu nous guérisses. Il faut que tu nous purifies, nous sanctifies. Ensuite, il faut que tu nous diriges. Parce qu'on n'a plus de muscles. On est devenu lourd. On est devenu paresseux. Alors, il y a là tout un retour, si vous voulez, de Jésus-Christ après sa mort sur la croix. Un retour qu'il nous convient de voir et d'entrer. D'entrer dans cette idée, d'entrer dans cette réalité, et de vivre cette réalité. Jésus, maintenant, est dans son Église. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Aujourd'hui, ce soir, maintenant, ici, dans cette salle, nous sommes rassemblés dans le nom du Seigneur, et il est là au milieu de nous. Si on était juste après la résurrection, eh bien, il pourrait apparaître. Il n'y a pas de différence. Il pourrait apparaître au milieu de nous. Le cœur de l'épouse dit, viens Seigneur Jésus. Toute épouse dit à son époux, viens vers moi. Est-ce que vous avez ce cri dans votre cœur? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous réveillez le matin? Viens Seigneur Jésus. Ou bien est-ce que les soucis de la terre, les soucis de la vie, toutes les petites tâches à faire ce jour-là, les choses à souvenir pour passez une autre journée qui sont dans votre tête. Viens, Seigneur Jésus. Trois fois le Seigneur, dans le 22 de l'Apocalypse, dit, voici, je viens bientôt. Voici, je viens bientôt. C'est, peut-être que ça prendra, comme je vous ai dit au début de cette semaine, ça prendra peut-être des mois, des années, des centaines d'années, on ne sait pas. Mais bientôt, dans la mesure du ciel, un jour c'est 1000 ans, 1000 ans comme un jour. Donc, bientôt, peut-être n'importe quand. Mais s'il veut trouver en nous, c'est une église qui l'attend, une épouse qui se réjouit de le voir, qui est excitée, et qui, elle, fait ce que son époux souhaite qu'elle fasse, qui se prépare pour lui. Et c'est ça la joie d'une noce, c'est se préparer pour la noce. La noce, elle ne se passe pas le jour du mariage. Elle commence quand la noce? Des semaines avant le mariage. C'est quand on fait des plans, c'est quand on prépare des choses, c'est quand on prépare des choses. On est tous là ensemble, les familles, on commence à se connaître, on commence à faire des choses, on rit bien, on a de la joie ensemble, on se réjouit d'être là participant pour que cette jeune fille et ce jeune homme soient mariés et soient soutenus pour le reste de leur jour. Ça, c'est un mariage, un beau mariage, n'est-ce pas? Eh bien, on a un mariage qui est devant nous. Qu'est-ce qu'on fait pour ce mariage? Est-ce qu'on se réjouit? Ou bien qu'il ne représente rien du tout? On se réjouit, bien sûr. On se réjouit tous les jours de ce mariage. En plus de cela, il y a des gens à convier encore. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va les convier, bien sûr. C'est important. On n'a pas besoin de leur dire venir au mariage. On leur dit autre chose. Mais on leur dit, on les introduit à toute l'idée, n'est-ce pas? On en a parlé aujourd'hui, hier et avant-hier, dans les tables, aux discussions, le soir. On a parlé tout le temps de cette difficulté que nous avons de faire passer un message. Mais, en fin de compte, c'est bien ça. Nous sommes ici sur la terre, pourquoi? Non pas parce que Jésus ne nous veut pas au ciel. Oh non! Le moment où il reçoit l'ordre, il est là. Ça prendra une seconde. Ça ne veut pas prendre du temps, du tout. Pourquoi? Parce que tout est prêt. Tout est prêt. Les demeures sont prêtes, tout est prêt. Et il nous attend. Et vous savez, vous, mesdames, qui cuisez à la maison, que vous avez un beau dîner et que tout est prêt, et que les invités ne sont pas là, ça, c'est difficile. C'est dur à accepter ces stars avec sourire. Oui. C'est dur à laver. C'est dur à accepter. Parce que le repas n'est jamais aussi bon que tu dois rester sur le fourneau pendant une demi-heure. C'est-à-dire que tu peux être servi au moment où il est prêt, alors là, il est le plus délicieux. Eh bien, c'est exactement la même chose pour nous. Nous avons une noce qui va venir. Et ce n'est pas nous qui allons décider quand nous arrivons. C'est l'époux qui viendra vers nous prendre quand il est prêt, lui, quand il en reçoit l'autre. Mais en attendant, il a tout préparé. Tout est prêt. Tout est prêt. Ce soir, on ne va pas parler de prophétie. Mais on va regarder dans Éphésiens, au chapitre 5. Et cela, je vais le prendre comme une exhortation que le Saint-Esprit nous donne aujourd'hui à chacun de nous et à moi en premier. Au verset 14. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ resplendira sur toi. Et quel est le mot suivant? Veillez. Veillez. Je relis le verset. Comme il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Veillez. J'aimerais qu'on puisse finir cette semaine, cette dernière réunion ce soir, avec ce verset. Parce que ça nous donne une ligne, une direction. Peut-être qu'il y en a parmi nous qui, il y a une semaine, étaient endormis. Endormis de fatigue, endormis de, peut-être, de manque de motivation, peut-être endormis parce que de confusion, peut-être parce que les choses étaient en désordre, ou les choses n'étaient pas dans la bonne priorité. Peut-être qu'il y avait des problèmes qui avaient l'air d'être des montagnes, et puis qui empêchait de voir la suite du chemin. Et de découragement, nous étions ceux et celles qui dormaient. Eh bien maintenant, je vous dis à la fin de cette semaine, réveille-toi, toi qui dors. Est-ce que vous êtes réveillés? Moi, je crois qu'il y en a plusieurs qui sont réveillés cette semaine. Je crois qu'il y en a plusieurs dont les cœurs se sont réveillés. Et c'est une grande grâce que nous pouvons louer le Seigneur pour cela. Nous avons vu son tabernacle. Pour bien d'entre nous, c'était la première fois qu'on avait vu des vérités qui sont attachées. On en verra plus demain. Et puis, nous avons pu nous occuper de notre époux qui va venir. et ça nous réveille. Ça nous réveille. Et réveiller, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'encourage, je nous encourage tous. Réveillons-nous. Parce que l'heure avance. Rachetons le temps. Parce que nous avons que maintenant. On ne peut pas garantir demain et on ne pourra jamais refaire le jour d'avant. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Il y a peut-être dans nos vies des chemins de mort. Des décisions qui nous ralentissent. On traîne des boulets. Oui, on vogue sur le lac ou sur la mer, mais il y a l'ancre qui est encore en bas au bout d'une chaîne. Et ça ralentit le bateau. Vous voyez ce que je veux dire? Réveille-toi, relève-toi d'entre les morts. Les morts, c'est quoi? C'est notre siècle, c'est l'esprit du monde, c'est la société, c'est toutes les choses qui sont secondaires dans notre vie. Bon, bien sûr qu'on doit travailler pour notre vie, ça c'est clair, il faut travailler. La parole nous exhorte, il y a des choses, des rôles que l'Église doit faire et avoir. C'est nécessaire de faire ces choses et de les faire pour le Seigneur, et de les faire bien. De le glorifier dans ces choses. Mais il y a tant d'autres choses que le monde offre, et vraiment ça fait partie du cimetière. Ça ne fait pas partie de la vie. Alors il y a une action qui doit se faire, c'est de se relever, c'est de se mettre debout, et de se lever, que tout le monde vous regarde, c'est pas facile. Je me rappelle le premier soir quand on faisait les présentations, et que M. Fernand a dit, chacun qui va se présenter se lève. Et on ne s'est pas levé. Pourquoi? Parce qu'on était un peu timide. Hein? Et là, l'exhortation, elle est pour notre courage. Ne soyez pas timide. Prenez courage. Je suis avec toi. Jéhovah avec toi. Ma présence ira avec toi. L'Éternel dit à Moïse. Eh bien, ça n'a pas changé. Relève-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts. Eh bien, ici, cette semaine, je crois que bien d'entre nous, nous nous sommes levés. Mais restons debout. Restons debout. C'est seulement celui qui est debout qui peut aller. L'Évangile, tout le Nouveau Testament nous dit, va, va ici, va là, fais ceci, fais cela, va, avance. Tous ceux qui travaillent pour une compagnie, il y en a peu qui restent sur place, presque. Dans toutes les compagnies, il faut aller. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut réparer ici, il faut réparer là. Il faut aller voir ce client, il faut aller voir ceci, il faut courir à gauche, à droite. C'est dans la course que les choses augmentent. L'Église ne fait rien si elle s'asseye sur ses bancs. Il faut aller. Il faut aller vers les gens. Il faut les aimer, les aider, s'investir. Vous savez, quand on avait pris ce séminaire que nous donnons, ma femme et moi, environ 9 mois plus tard, je devais aller au travail. C'était au printemps 1974. Je vais aller au travail, et je raconte cette histoire dans les séminaires plusieurs fois. Et puis, j'avais une jolie petite voiture, et puis je vais sur l'autoroute, et en montant sur la bretelle de l'autoroute, je vois une énorme Cadillac qui avait un pneu plat. Mais je n'avais jamais vu une Cadillac aussi grosse que ça. Et alors, je me suis dit, cette personne qui a cette crevaison, il faut certainement l'aider. Et cette voiture avance tranquillement, se met sur l'herbe là de côté. Et puis moi, je me parque devant, et je vais vers la fenêtre du conducteur, et je lui dis, est-ce que je peux vous aider à changer le pneu? Puis la fenêtre se baisse. Et puis, c'était une demoiselle qui conduisait, il y en avait deux autres avec elle. Elle me dit, oh, ça sert à rien, parce qu'on n'a pas de pneu de rechange. Je leur dis, est-ce que je peux appeler un garagiste pour vous? Non, peut-être que c'est mieux pas. Nous allons chercher quelqu'un pour cela. Et puis, je fais le tour de la voiture et je vois que les quatre pneus étaient lisses. Il n'y avait même pas un profil dessus. Et puis, je vais vers la conductrice de nouveau, puis je lui dis, tu sais, il n'y a pas un pneu qui est légal sur cette voiture. Et elle me dit, oh, je sais bien. Mais écoutez, c'est gentil de nous offrir quelque chose, d'être gentil comme ça, mais est-ce que vous pourriez conduire ma soeur à son endroit de travail parce qu'elle elle commence son travail aujourd'hui et elle sera en retard. Et bon, je lui dis d'accord, je lui donne ma carte de visite, je lui donne autant de données possibles et imaginables pour m'identifier, pour pas qu'ils aient peur, parce qu'à l'époque c'était encore très dangereux à New York. Et puis je prends cette jeune fille qui avait 18 ans dans ma voiture, et on commence à parler, et puis elle me dit, oui, c'est quand même bizarre, ce matin, notre réveil n'a pas sonné, on a manqué le train, j'ai appelé ma copine qui est venue avec sa voiture, et puis voilà, on a une crevaison, et puis on vous rencontre. Et là, je savais que les voies de Dieu étaient en vol. Je savais que toutes les voies de Dieu étaient là. Et je lui ai demandé pourquoi elle allait travailler, puis elle m'a dit, oh, mon père est mort il y a 2 jours. Et le corps est en Angleterre où ma mère va l'enterrer, et puis nous sommes toutes les 5 à la maison, et puis on a encore une 6e sœur qui se trouve en Angleterre aussi pour des études. Et alors, je me suis dit, je pouvais voir ces 5 filles qui avaient perdu leur père, sans la mère, toutes seules, à fonctionner dans cette maison. Je me suis dit, mais il n'y a pas une scène plus déprimante que ça. Et puis, je lui ai dit, s'il devait être enterré ici, dans quelle église est-ce qu'il aurait été enterré? Puis elle m'a donné la dénomination. Et je me suis dit, ben, c'est pas là qu'on va trouver l'évangile bien souvent. Et mais toujours est-il que je priais pour cette situation, je l'amène à son lieu de travail, j'avais son adresse, j'appelle ma femme. Et puis, la première réaction de ma femme, mais tu es fou de prendre des gens comme ça que tu connais pas. Je lui ai dit, tu sais, c'est pas que je prenne des gens qui font de l'autostop. J'ai pris quelqu'un qui était dans le besoin. Et maintenant, ces filles sont dans le besoin. Et moi, je ne vais pas aller faire ce travail. Je vais te demander, toi, de faire les connexions et de faire ce qui est nécessaire parce que tu es maintenant, pour ainsi dire, la seule personne qui soit féminine et qui peut s'occuper de ces jeunes filles pendant que leur mère est loin. Alors bon, on leur donne un coup de téléphone. Et puis, 3 jours plus tard, les voilà qui sont arrivés, toutes les 5. De 18 à 9 ans. Et elles avaient dans leurs mains un télégramme, comme quoi leur maman était à l'hôpital. Elle avait eu quelque chose, elle devait passer en chirurgie en Angleterre. Et puis, elle n'avait pas eu le temps encore d'ensevelir son mari. Alors, ça attendait pendant qu'elle était à l'hôpital, et puis qu'il fallait qu'elle se soigne, elle en avait pour 2 semaines. Alors ces pauvres filles, elles étaient là, elles se disaient, qu'est-ce qu'on va faire pendant 2 semaines? Puis on a découvert que sur le plan financier, elles n'avaient pas grand-chose. En plus de ça, la voiture qu'elles avaient, elle ne marchait pas. En plus de ça, elles étaient bien sûr extrêmement éprouvées par la perte de leur papa. Et nous nous sommes occupés de cette famille pendant tout l'été. Nous n'avons pas dit un mot sur Jésus-Christ. Nous avons repeint toute la maison, extérieur, intérieur. Nous avons fait des réparations partout, dans le jardin, partout. Finalement, la veuve nous a dit, mais pourquoi est-ce que vous faites tout ça? Il n'y a pas un des amis de mon mari, ni des miens, qui s'occuperait de nous. Aussi, on reçoit un téléphone tous les 15 jours, même des amis qui sont les plus proches de nous, eh bien, c'est le maximum. Mais vous prenez un tel soin de nous et de nos filles, de mes filles. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Et on lui a dit, madame, on ne peut pas vous expliquer ça en 5 minutes. Il faut que vous nous donniez un peu de temps. Oh, bien sûr, je vous donnerai le temps. Alors, on a fait un rendez-vous. Et puis, ma femme a commencé à lui expliquer que le Seigneur nous a aimés tellement plus que nous pouvons aimer n'importe qui dans le monde. Et puis, cette dame nous a dit, oh, vous savez, moi, je ne suis pas religieuse. Et mon mari, lui, il avait une grand-mère qui était religieuse. En fait, cette grand-mère lui avait donné un livre que j'ai toujours. Et puis elle va dans sa bibliothèque, elle nous amène une vieille édition du voyage du petit pèlerin. Et on regarde dedans et on voit dans la dédicace que c'était sa grand-mère qui lui avait donné ce livre dans l'espoir qu'un jour il deviendrait un chrétien. Et là on a commencé à chercher les souvenirs de ces jeunes filles pour voir ce que lui avait passé comme témoignage à ses filles. Et lui n'avait pas suivi le Seigneur. Mais dans son cœur, il avait dû avoir quelque part dans son passé une décision quelconque parce qu'il leur promettait toujours un jour de pouvoir leur expliquer ce que c'était la Bible. Mais il n'avait jamais, si vous voulez, le courage ou disons, il n'avait jamais pris le temps de le faire parce que probablement il se sentait timide. Et puis ses filles grandissaient, hein, et puis elles faisaient leurs propres idées. Mais pour faire une longue histoire, raccourcir une longue histoire, Environ deux ans après ces funérailles, eh bien, les six filles étaient chrétiennes, et la mère aussi. Chacune des histoires est merveilleuse. Et puis, maintenant, il y en a une des deux qui est ma belle-sœur. Et c'est pour vous dire, les voies de Dieu, elles sont incompréhensibles. Pourquoi ça arrive? Parce que nous sommes impliqués dans l'appel de l'Église qui doit maintenant répondre. Et le Saint-Esprit nous conduit un pas après l'autre. Il y a parmi nous des gens qui sont très actifs dans l'Évangile. Il y en a d'autres qui le sont moins. Mais je vais vous encourager. Souvenez-vous, vous faites partie du retour de Jésus maintenant. Vous faites partie du retour de Jésus maintenant. Et comment est-ce qu'on le sait? Parce que le Saint-Esprit nous transforme en l'image de son Fils. Il nous transforme. Il nous métamorphose en l'image de son Fils. Si l'image du Fils de Dieu était celle d'un papillon, nous les chenilles, nous sommes transformés en papillons. Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes transformés en l'image de son Fils. Vous faites partie de ce retour. Vous êtes corps de la tête. Donc, voyons le retour de Christ comme une actualité qui va continuer à se manifester un jour quand lui va venir transmuer nos corps de faiblesse en corps de gloire. Mais un jour, nous reviendrons sur la terre pour régner avec nos corps de gloire. Ce sera tout différent, mais enfin, on sera là, quoi. On sera de nouveau, peut-être au Canada, peut-être ailleurs, on ne sait pas. Mais notre citoyenneté, elle est dans les cieux. On n'aura plus de drapeau. On n'aura plus de constitution. Nous aurons le Seigneur. Et je vais vous dire ceci, réjouissez-vous. Parce que le banquet de l'agneau est pour très bientôt. Réjouissez-vous. Anticipez la chose, jour après jour. Et demandons au Seigneur, Seigneur, conduis-moi vers ces personnes que tu as choisies pour ton banquet éternel. Et il va le faire. Et il vous donnera les paroles. On a beaucoup parlé d'être préparé. On a beaucoup parlé d'avoir les outils spirituels pour pouvoir faire ce travail. Le Seigneur nous donne tout, mais il faut les assimiler en nous et les avoir d'une manière claire. Alors, bon, je vous ai raconté une petite histoire de notre vie avec ma femme. Eh bien, au cours des années, nous avons eu comme témoignage la joie de pouvoir adopter trois enfants, trois jeunes. Et puis, nous avons eu nos trois à nous. Et maintenant, en tout, il y a 15 petits-enfants plus deux qui vont naître d'ici 7-8 mois. Enfin, un petit-enfant qui va naître en septembre, l'autre qui est dû pour janvier. Alors, on est très reconnaissants parce que Dieu nous bénit. Et tous les six sont au Seigneur et les petits-enfants viennent au Seigneur les uns après les autres. Alors, on peut être reconnaissant. Mais comment ça se fait, ces choses? Il n'y a pas de formule. C'est une grâce. Mais je vous dirai une chose. L'enseignement à la maison de la parole de Dieu n'est pas une option. Elle doit être faite tous les jours. En famille. Quand on met la table pour le souper, la Bible fait partie de la vaisselle. N'est-ce pas? Les Bibles sont sur la table comme le reste. Et puis, à la fin du repas, on prend 10-15 minutes pour lire la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on faisait chez nous, dans ma famille, quand je grandissais? Eh bien, chacun avait sa Bible et lisait un verset. Et puis c'était toujours, on prenait un livre et on finissait le livre. Puis après on prenait un autre livre et on finissait le livre. Et on lisait, je sais pas, un paragraphe, 10 versets, 15 versets, peu importe ce que c'était. Après, mon père posait des questions. On fermait les Bibles et mon père posait des questions pour voir si on avait bien compris, si on avait bien lu. Et c'est ce qu'on vous fait le matin. Eh bien, après ça, on répondait à ces questions, puis après, il disait, quelle est la leçon? Ou quelles sont les leçons? Et puis, si personne ne pouvait voir, il disait, qu'est-ce qu'on apprend au sujet de Dieu? Qu'est-ce qu'on apprend au sujet de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'on apprend au sujet de nous-mêmes? Et puis, si on n'apprenait rien, ni de Dieu, ni de Jésus-Christ, ni de nous-mêmes, alors mon père disait, c'est beaucoup trop compliqué, on va voir ce qui se passe demain. Puis on priait, c'était terminé, la lecture était finie. Bien sûr, quand on arrive dans les premiers chapitres des chroniques, hein, c'est pas facile, hein, c'est beaucoup de mots, beaucoup de noms. Mais enfin, voilà, on apprenait des choses. Et je vous assure que 80% de ce que je fais dans la Bible, je l'ai appris à la table de famille. Alors, je vais vous encourager. Lisez la parole, faites de la parole un plat tous les jours. Le dessert des desserts. Ok? Si vous pouvez déjà faire ça tous les jours, vous savez, c'est une immense victoire pour votre famille, pour votre couple, pour votre... De partage, déjà rien que le partage est tellement, tellement important. Parce que maman voit des choses que papa ne voit pas, et papa voit des choses que maman ne voit pas. Et les enfants, ils voient tout plus quelque chose. N'est-ce pas? Alors, apprenons à mettre cette parole sur la table de la famille et à la lire tous les jours. Vous savez, c'est l'exemple qui fait. Et le Seigneur reviendra dans votre famille et dans les familles de vos enfants et dans les familles de vos petits-enfants. Que la parole de Dieu soit dans votre famille tous les jours. Et ça, c'est mon encouragement pour vous. Et puis, si vous voulez faire quelque chose de bien, eh ben, je vous rappelle, en 79, à la fin de mois, nous avons commencé le ministère des séminaires des chrétiens. Je ne voudrais même pas vous montrer ce qu'on avait publié à cette époque. Tellement c'était pauvre. C'est sur une machine à écrire, comme ça. Et puis maintenant, grâce à M. Jean Gras, on a un magnifique livre rouge qui est bien fait. Et puis, on donne ces séminaires au Québec. Et je vais vous expliquer un peu ce ministère. C'est un ministère qui demande énormément de sacrifices. Non pas de moi, mais surtout du comité. Le comité doit mettre énormément de temps pour préparer un séminaire. Tant le comité local que le comité provincial. C'est toute une organisation. Mais c'est une organisation bénie. Il y a une onction sur cet effort. Et alors ce qu'on fait, on prend un certain nombre de... On le publie à un certain nombre d'églises d'une région. Et pourquoi est-ce que nous voulons que tous les chrétiens se rassemblent? Parce que nous travaillons pour le bénéfice du corps de Christ, et non pas pour le bénéfice d'une dénomination ou d'un groupe ou d'une non-dénomination. Ce qui est important, c'est que nous voyons le corps de Christ ensemble. C'est un encouragement pour les chrétiens locaux, pour les pasteurs, comme pour nous tous. C'est un témoignage public qui est très fort, très très fort. Et alors, pendant une semaine, nous nous occupons d'étudier les grands axes de la pensée de Dieu. Comment Dieu réfléchit? Pourquoi est-ce qu'il réfléchit comme il réfléchit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Pourquoi est-ce que nous avons une vie chrétienne qui va en zigzag? Comment est-ce que nous allons mettre cette vie chrétienne ou tâcher de remettre cette vie chrétienne sur les rails? Comment est-ce qu'on fait ça? Quels sont les outils spirituels que Dieu nous donne? Quelles sont les conséquences auxquelles nous pouvons atteindre si nous négligeons notre vie spirituelle ou si nous faisons les choses correctement? Vous voyez, toutes ces questions-là sont très pratiques. Et nous apprenons à avoir des outils spirituels, et à les utiliser. Et ils ne sont pas compliqués. Mais seulement, il faut en comprendre pourquoi. Nous sommes des gens compliqués. Nous n'aimons pas faire une chose parce qu'il faut la faire. Il faut comprendre pourquoi on doit la faire. Et quand on comprend pourquoi on doit la faire, il n'y a pas de problème. On la fait. Si par exemple, on a fait une analyse d'eau, et puis qu'on vous a dit, oh ben, il faut réparer ça, et puis il n'y avait pas de conséquences, ça aurait pu attendre quelques jours. Hein? Il n'y avait pas d'urgence. Mais maintenant que tout est réparé, que tout ira bien, eh ben, on s'est dépêché, M. Fernand et Luc ont fait un travail de titan, et tout marche. Donc, on espère que la prochaine analyse sera parfaite. Voyez? Eh bien, il y avait une motivation. La motivation, c'était l'État, c'était les campeurs, c'était le camp qui vient, c'était la santé de tout le monde. Il y avait une motivation. Eh bien, c'est la même chose avec la parole de Dieu. Il y a une motivation. Si nous voulons racheter le temps, il nous faut nous débarrasser de choses dont on n'a pas besoin. Et il faut adopter les choses dont on a besoin. Et puis après, il faut commencer avec un certain momentum. Parce que si on n'a pas le momentum, il n'y a pas de croissance. On a parlé de ça hier, la question du momentum. Donc il faut qu'il y ait un mouvement. Et pour que ce mouvement soit là, il faut mettre un nombre de choses en place. Une fois qu'elles sont mises en place, eh bien, la personne commence à gagner des âmes au Seigneur. Et ce n'est pas parce que nous n'allons pas vers les gens, mais Dieu ne confie pas des âmes perdues à des personnes qui ne sont pas préparées. Et je vous promets, il le fait comme ça. Pourquoi? Parce que Dans un sens, nous sommes mères, nous sommes pères de ces hommes qui se convertissent. Nous sommes des mères spirituelles, des pères spirituels. Et si nous n'avons pas notre rôle de mère et de père spirituel, nous ne l'avons pas compris, nous sommes désemparés, qu'est-ce qui arrive? Il y a des nouveaux-nés spirituels qui vont périr. Pas dans leur faute, dans leur péché, mais qui auront faim et qui ne sauront pas où aller. Alors nous ne voulons pas être de ceux et celles qui sont comme ça, au contraire, nous voulons être préparés. Et un séminaire de base nous prépare à cela. Bien sûr qu'il y a du travail après, il faut le faire, mais le royaume de Dieu, c'est sérieux, c'est pas de la rigolade, hein. C'est sérieux. Et vous savez, nous sommes loin, loin, loin d'être des exemples. On a fait beaucoup, beaucoup de fautes. Mais mieux faire des fautes, mais avancer, que ne pas faire de fautes et de rien faire. Il n'y a que celui qui ne fait rien, qui ne fait pas de fautes. Mais il fait la faute de ne rien faire. Et alors je crois que le Seigneur est clair. Il nous dit, je veux que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et du fruit qui demeure. Et je vais vous encourager. Vous faites partie du retour de Jésus-Christ. Ça a déjà commencé par son Église. Nous sommes dans ce mouvement. C'est un mouvement qui doit maintenant faire appel à tous ceux et celles qui ont besoin de lui. Comment est-ce qu'on sait que les gens ont besoin de lui? On va chercher ceux qui sont tristes, ceux qui sont confus, ceux qui sont en grande difficulté personnelle, ceux qui sont découragés, ceux qui sont malades, ceux qui sont seuls, ceux qui sont en détresse. Voilà vers qui Jésus va. Puisqu'il est allé vers ces gens, vers qui nous envoie-t-il avec l'Évangile? Vers les mêmes gens. Vers les mêmes gens. Donc n'allons pas nous faire des idées et avoir peur que c'est impossible. Ces gens vivent dans votre voisinage. Ils sont là. Et je veux vous encourager, frères et sœurs, demandez au Seigneur de vous les mettre sur votre chemin. Et tout simplement, vous aurez un jour un Bartimée qui sera là. Vous aurez un jour des lépreux. Vous aurez un jour spirituellement. Vous aurez un jour des gens déprimés. Vous aurez un autre jour, vous aurez des gens qui auront besoin d'aide élémentaire. Il faudra de la sagesse. Mais allez deux à deux. Ne soyez pas seul dans ce service. Allez deux à deux. Travaillez ensemble avec un ami ou une amie ou un couple. Pourquoi? Parce que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, Yahweh au milieu d'eux. Je suis là au milieu d'eux. Vous n'êtes jamais seul dans ce travail. Toujours, il est avec vous. Qu'il nous soit accordé de faire cette expérience. Et j'aimerais tellement voir que de ce groupe ici, il y a une telle transformation dans nos cœurs, dans vos cœurs, que lorsque vous retournez là où vous avez vécu, où vous vivez, les gens puissent dire, il y a comme un retour de Christ, de l'odeur de Christ, depuis cette retraite, ici, à Sillerodge. C'est ma prière, que Christ soit puissant par vous. Il faudra que vous diminuiez et que lui grandisse. Et il nous aime tous tellement. Il nous aime tous tellement. Il va être avec nous, pas après pas, épreuve par épreuve. Et vous savez, dans toutes ces choses, il les envoie pour notre bien et pour le bien de beaucoup d'autres aussi. Donc, n'ayons pas peur de l'épreuve. N'ayons pas peur d'être rejeté. N'ayons pas peur de ça. Il a été rejeté, lui. Est-ce que ça lui a fait peur? Non. Il a continué. Qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Si on n'accepte pas votre message, eh bien, secouez la poussière sous vos pieds et puis vous continuez. Ne perdez pas de temps. Si vous investissez dans quelqu'un pour l'aider, vous investissez tant de fois, tant de semaines. Après ça, s'il n'y a pas aucun résultat, eh bien, c'est quelqu'un d'autre. Et puis, le Seigneur vous montrera. Mais allez, allez et allez. Et Dieu va vous bénir. Merci et nous allons finir en prière. D'accord? Merci Seigneur parce que tu es notre Dieu. Tu es notre berger, mais tu es aussi celui qui est notre Jéhovah,
là où nous sommes assemblés en ton nom. Tu es celui qui est avec nous dans le chemin, comme sur le chemin d'Emmaüs. Alors que nous ne sommes pas même conscients, tu es avec nous. Merci Seigneur, parce que tu as dévoilé pendant cette semaine toutes les choses qui te concernent dans l'Écriture. Et il y en aurait beaucoup d'autres à voir encore, mais nous te bénissons de ce que nous en avons appris bien quelques-unes. Et maintenant, que tu nous associes à ce retour, que tu nous associes par le Saint-Esprit à cette espérance sûre et glorieuse, donne-nous, Seigneur, de vivre cette espérance, de vivre dans la puissance de cette espérance et de cette réalité. Veuille, Seigneur, enlever de nos vies ce qui nous ralentit, ce qui nous empêche de progresser, et veuille mettre dans nos vies ce qui va nous faire avancer et va nous faire porter du fruit. Ô Dieu et Père, nous te remercions pour cette semaine et pour tout ce que tu nous as enseigné. Et nous restons bien humbles devant toi, parce que nous réalisons qu'il n'y a rien en nous, mais que tout vient de ta grâce. Et pour cela, ô Dieu et Père, nous te louons et te bénissons dans le nom de Jésus. Amen.